Ribine, le magazine qui explore, qui visite, qui voyage et qui découvre. Parcourez les chemins de traverse en suivant nos micros.
Dans Ribine, nous avons suivi l'histoire de Morvac, ce vieux gréement en bois construit par Jean Grouel, un amateur passionné de navigation. Au départ de Camaret, Morvac a parcouru les mers et les océans. Mais après 50 ans dans l'eau, le voilier n'a pas résisté à la tempête Alex. La famille Grouel, soutenue par les Camarétois et Camarétoises, a alors tout mis en place pour réparer Morvac et le voir naviguer à nouveau. Depuis le début de l'année 2022, plusieurs charpentiers de marine travaillent à la réparation du bateau. Parmi eux, nous allons aujourd'hui à la rencontre de Gwenolé, l'occasion de découvrir ce métier maritime de plus près.
Alors, je suis charpentier de marine et j'officie un peu partout en Bretagne, mais je suis plutôt basé en rade de Brest.
Qu'est-ce que c'est être charpentier de marine ?
La charpente de marine, c'est avant tout construire des bateaux en bois. Et encore plus maintenant, les réparer.
Pourquoi vous avez voulu faire ce métier ?
Étant né au bord de la mer, moi j'ai toujours vu des bateaux autour de moi. Enfin, c'est le milieu maritime en fait, fait vraiment partie intégrante de ma personne. Quand j'étais gamin, je faisais de la plaisance hein, avec mes parents, mais plutôt sur des bateaux en plastique. Et je voyais quand même des bateaux en bois que je ne savais pas ce que c'était. Hein. Il s'avérait plus tard que c'était en fait les coquillers de la rade de Brest, donc des bateaux très spécifiques à la rade de Brest. Ils étaient tous tout noirs. Donc moi, dans ma tête d'enfant, je les appelais bateaux noirs. Et puis, ils me fascinaient, ces bateaux. Je ne connaissais pas leur histoire, mais j'avais très envie de monter dessus, Je voyais bien qu'il y avait une certaine ambiance à bord de ces bateaux qui était un peu différente que celle du plaisancier du dimanche. Comme s'il y avait une espèce de style de vie qui accompagnait ces bateaux-là, plus proche de peut-être de... C'est un peu bateau de dire ça, mais enfin sans mauvais jeu de mots, mais plus proche de l'élément en mer ou enfin quelque chose de très enraciné avec une culture derrière que même si j'avais pas ces mots-là à l'époque, c'est quelque chose que je pressentais. Je voyais bien qu'il y avait un monde et quelque chose de très chargé ancestralement autour de ces bateaux. Et ça dans mon imaginaire, moi ça me touchait beaucoup. J'avais vraiment envie de rentrer dans ce monde-là. Et puis il y a eu la grosse révélation des premières fêtes de Brest où le chasse-marée arrive. Pour ceux qui connaissent pas l'histoire, il y a une équipe de personnes dans les années 80, fin des années 80 là, qui s'est quand même rendu compte que tout le milieu de la construction en bois et tout le savoir-faire qui allait avec était en train de disparaître, donc tout un pan de notre histoire en fait qui disparaissait. Et pour sauver ça, on a eu l'idée géniale d'organiser un concours en appelant toutes les communes littorales à reconstruire un bateau qui propre à leur histoire. Il faut savoir que sur tous les côtes de France, tous les bateaux sont différents parce qu'on pêchait pas pareil, parce que les outils de pêche n'étaient pas les mêmes, parce que les plans d'eau sont pas les mêmes. Donc chaque bateau, chaque outil de travail est vraiment adapté à son endroit. Et du coup, ça a super bien marché. Il y a eu, je crois, plus de 100 bateaux de construits. Et en 92, tous ces bateaux sont arrivés en même temps à Brest. Et moi, ça a été un flash, quoi. J'ai fait, mais en fait, voilà, moi, je veux... En fait, ça existe, c'est possible. Il y a des gens qui ont construit ces bateaux. Moi, je veux faire ça. Voilà.
Il y a un bateau parmi ces bateaux qui t'a marqué plus que les autres ?
Non, mais je crois pas parce qu'en fait, ce qui est aussi passionnant dans ce monde-là, c'est que c'est justement, je vais me répéter, mais c'est toute la différence qu'il y a. C'est d'un endroit à un autre, on va concevoir un bateau différemment et ils ont tous leur utilité. Et dans l'utilité, il y a toujours une esthétique qui s'y accompagne. Et en fait, non, j'ai pas de préférence. Enfin, si, j'ai forcément une petite préférence pour les bateaux de travail de la pointe bretonne. Mais je suis émerveillé par tous les bateaux de course anglais, écossais, ou même des bateaux qui peuvent paraître extrêmement rudimentaires dans l'océan Pacifique, où ils ont des gréements qui sont absolument incroyables et qui... on peut penser que c'est sommaire ou archaïque, et en fait on s'aperçoit que ces mêmes profils aujourd'hui sont utilisés pour faire les ailes d'avion de chasse, par exemple.
Aujourd'hui, vous travaillez notamment sur la restauration du Morvar. Est-ce que vous le connaissiez avant, le Morvar, avant d'être appelé à le restaurer ?
Oui, alors le Morvar, moi, quand j'ai su, quand on m'a raconté ce qui s'était passé... En fait, moi, j'avais pas vu les images. C'est quelqu'un que j'ai croisé comme ça, quelqu'un de la famille, hein, de la famille Grouel. Moi, tout de suite, je connaissais ce bateau. Quand on va à Camaret, Morvar, il fait vraiment partie du paysage. Et moi, depuis que je suis tout gamin, j'ai toujours vu ce bateau, toujours. Et donc oui, je connaissais ce bateau. Ouais.
Pourquoi ça vous a intéressé de réparer le Morvar ?
Eh ben, vu qu'effectivement c'était un bateau que j'avais toujours vu, en fait, pourquoi ? Ça me semble tellement évident, j'arrive même pas à mettre des mots, en fait. ouais, c'est ça, c'est un bateau que j'avais toujours vu. Et du coup, on m'a demandé de venir voir en tant que charpentier pour donner mon avis. Et quand j'ai vu le bateau, j'ai vraiment eu mal au cœur, vraiment. Hein. Après j'ai vu les images, je le souhaite à personne hein, de vivre ça.
Ressemble
à quoi ? Il était éventré, les membres fracassés, des trous, plusieurs trous dans la coque, dont un de presque 2 mètres carrés. Mais en regardant un peu le reste, on voyait que le bateau était solide et puis c'était pas du tout insensé de vouloir le sauver. C'était pas insensé. Donc j'ai dit oui, on peut le faire et on y va. Ouais.
Est-ce que Morvar demande des compétences spécifiques pour sa réparation ?
La difficulté sur ce chantier-là, c'est qu'il a fallu retrouver les formes du bateau qui avaient disparu, hein, parce que c'était vraiment, vraiment très déformé. Après, dans le type de construction, c'est assez classique. Donc à partir du moment où on maîtrise le métier de charpentier de marine, c'est un métier qui est toujours difficile. Ça se passe jamais comme on a prévu. Mais c'est pas une construction très atypique.
Est-ce que la réparation du Morvar, ça va permettre quand même la transmission de savoir-faire spécifique ?
La transmission, moi quand on me dit ça, j'ai l'impression que je suis un papy, quoi, déjà. Donc, c'est un mot avec mot que j'utilise pas, en fait, mais... Après, il s'avère que là, je travaille avec Baptiste, qui est novice en la matière. Donc, effectivement, il y a un apprentissage. Et donc, forcément, une certaine forme de transmission. Mais je trouve ça un peu le terme un peu galvaudé, mais bon.
Est-ce que le savoir-faire de la charpente maritime, il y a un risque qu'elle disparaisse ou pas du tout ?
C'est un métier qui a failli totalement disparaître, un savoir-faire. Je vous parlais tout à l'heure de l'équipe du chasse-marée. Sans ces personnes-là, je pense que le métier aurait quasiment disparu. Donc ça a été sauvé vraiment in extremis dans les années 90. Il restait quelques rares charpentiers, mais moi aujourd'hui, je vois, depuis que je suis amené à travailler tout seul, donc des questionnements différents hein, qui se posent que quand on est salarié, parce qu'il faut avoir un questionnement plus global, hein, tout simplement. Je vois bien qu'il manque un pan de l'histoire dans la transmission, justement, et qu'il y a une perte de savoir-faire. Aujourd'hui, ça ne nous empêche pas de faire notre métier. On sait qu'il y a des solutions, il y en a toujours. Mais on peut se poser la question de, tiens, comment les anciens ils auraient fait à ce moment-là. Des tours de main, en fait, ça ne s'apprend pas dans les bouquins, ça s'apprend dans les ateliers. Il faut faire, il faut voir, il faut observer la personne qui a des années de métier derrière elle. Et parfois, je sens une petite rupture. Je me dis, tiens, là, ça a été fait comme ça. Alors moi, je vais le faire comme ça, ça va marcher. Mais peut-être qu'il y avait d'autres manières de faire. Aujourd'hui, on n'a pas les mêmes outils aussi. Donc, je sens parfois qu'il y a un petit vide. Hein, mais la transmission, c'est quand même fait. L'essentiel, il est là. Hein. Mais il y a une petite perte et on ne sait pas de quoi est fait demain. Peut-être qu'effectivement, ça peut redisparaître. On peut aussi penser que ça va être l'inverse. Peut-être qu'on va abandonner le plastique, qu'on va revenir plus à des constructions de bois, ce que je le souhaite fortement. Hein. Mais on ne sait pas. Donc, en tout cas, c'est un métier qui continue à évoluer. Ça, c'est intéressant parce que... Parce qu'on a des nouvelles cols, parce qu'on a des nouveaux outils, parce qu'on n'a plus les mêmes attentes aussi par rapport au bateau. Avant, un bateau, c'était un outil de travail qui pouvait être rentabilisé en une saison. Aujourd'hui, quand on construit un bateau en bois, ça rentre dans l'ordre de l'exceptionnel. On ne va pas construire un bateau en bois pour qu'il dure 10 ans. Donc on construit pour la longévité.
Pourquoi ce savoir-faire, à un moment, il a disparu? C'est à cause du plastique?
Ah ouais, c'est... je pense en grande partie à cause de l'arrivée du plastique, ouais. Ouais. Bah, par exemple, avant, tous les bateaux étaient construits en bois, que ce soit des bateaux de pêche, des bateaux de plaisance. Dans les années 70, on a commencé à maîtriser la construction en série de bateaux en plastique. Construction beaucoup plus rapide, du coup moins chère, des formes plus nouvelles, qui en bois, je pense, seraient plus ouvrageuses, pas forcément aussi efficaces. Je pense que ça a eu vraiment, vraiment un impact sur la construction de bois. Après, il n'y a pas que ça. Il y a aussi la diminution de la flottille de la pêche qui a fait qu'on a moins construit. Donc forcément, moins de construction, moins de commandes, moins de chantiers, moins de charpentiers, etc.
Et alors, vous, pourquoi le bois, ça vous a tellement plu ?
Le bois, c'est une matière assez fascinante, hein, quand même. On part d'une plante, quand même. Vraiment un être vivant qui, déjà dans son élément, est... tout ce qui va avec, hein, tout le romantisme qu'on peut imaginer, percevoir. Hein. Après, il y a tout un art de la coupe, du séchage. C'est une matière qui évolue tout le temps. Même quand un bout de bois il est sec dans son atelier, il continue à travailler. Et c'est une matière qu'il faut pas la domestiquer, mais faut vraiment apprendre comment elle fonctionne, trouver le fil, comprendre ses défauts, comment on va l'aborder. C'est pas un bloc de matière inerte comme on irait tailler un bloc de plastique, par exemple. Et ça, c'est toute une culture. C'est passionnant.
Ça veut dire que chaque bois est différent et selon ce qu'on veut faire d'un bateau, on choisit une essence de bois différente ?
Absolument, ouais. Sur un bateau, on peut très rapidement trouver 3-4 essences différentes, hein, sur un bateau assez basique. Par exemple, on va utiliser un résineux pour faire du pont. On va pouvoir utiliser du chêne pour faire le membrage, on peut pouvoir utiliser de l'orme ou du chêne pour faire la quille, on va pouvoir utiliser de l'acacia pour faire des pièces d'accastillage ou des membres ployés. Et après, si on part sur des bateaux un peu plus classieux, oui, on peut avoir des aménagements dans des essences un peu plus précieuses, ou des claire-voies sur le pont, pareil, dans des essences un peu plus précieuses. Pour la mature, on va utiliser un certain type d'essence également.
Dans le cas de Morvar, les membrures vont être en chêne, c'est ça ?
Alors sur Morvar, il y a deux types de membrures. Alors une membrure, en fait, il faut un peu comparer l'anatomie du bateau à l'anatomie animale. Donc on va dire que la colonne vertébrale, c'est la quille. Et c'est la quille qui va tenir le reste du squelette, notamment les côtes. Donc avec les côtes dressées vers le ciel, qui seront comparables aux membrures du bateau, quoi. Alors sur Morvar, il y a ce qu'on appelle des membrures franches ou des membrures sciées, donc qui sont des membrures en chêne, taillées dans la masse. Donc pour ça, on va utiliser des bois tors. Donc c'est-à-dire que on va choisir dans des pièces de l'arbre qui ont une courbure naturelle. Donc souvent ce qu'on appelle des branches charpentières, hein, les très grosses branches primaires de l'arbre, ou des arbres qui ont poussé sur des pentes ou des talus et qui, en allant chercher la lumière, ont une forme courbe. Et là-dedans, nous, on va aller utiliser ces formes-là pour retrouver la forme du bateau dont on a besoin. Donc ça, c'est pour les membrures franches. Et après, Jean a fait le choix de...
Jean Grouel,
le propriétaire du bateau, a fait le choix de d'écarter un peu plus ces membrures franches et d'y glisser des membrures de section plus légères qui, elles, sont étuvées, c'est-à-dire chauffées à la vapeur, pour permettre de les cintrer. Donc ça va permettre de réduire les sections, d'utiliser des morceaux de bois droits qu'on va mettre au galbe qu'on désire. Donc on les tord dans les trois dimensions.
Vous parliez tout à l'heure des outils qui avaient évolué dans la charpenterie marine, mais le travail, il reste quand même manuel et traditionnel ?
Ouais, on a un travail essentiellement manuel, ouais. Pour comparer par exemple à des menuisiers qui, eux, ont un travail essentiellement mécanique. Nous, une fois qu'on a sorti nos sections, tout va se faire à la main. Alors, beaucoup aujourd'hui, par le biais d'outils électroportatifs, hein, on a des rabots électriques, des ponceuses, des scies électriques, essentiellement ça. Et on utilise énormément d'outils manuels aussi. Hein. On a toutes sortes de rabots, de toutes formes, beaucoup de rabots arrondis, creux, ronds, des ciseaux à bois, beaucoup. Ouais, beaucoup d'interventions manuelles.
Donc là, aujourd'hui, les réparations sur Morvar ont commencé. Qu'est-ce qui a déjà été fait ?
Alors aujourd'hui, on a retrouvé les formes du bateau. À l'aide de lisse, hein, on a redessiné la coque, enfin redessiné, je veux dire, dans l'espace, hein, sur le bateau en lui-même. Ça nous a permis de refaire les membrures qui étaient cassées, donc elles sont déjà en place. Elles ont retrouvé leur forme. Et là, on a commencé à border. Donc il y a ce qu'on appelle les précintes, qui sont les deux premiers bordés supérieurs du bateau. Les bordés étant la peau du navire, en fait, hein, ce qui va venir recouvrir les côtes pour faire son étanchéité. Donc aujourd'hui, on a posé les deux premiers et la reprise du chantier va continuer là-dessus.
Comment on fait pour qu'un bateau il soit étanche ?
Un bateau, il est étanche déjà par le soin apporté à la construction. Chaque assemblage, chaque jonction de pièces devra être le plus précis possible. Et après, pour pallier aux petites déformations du bois ou du séchage ou de l'erreur de tour de main qui peut parfois y avoir, hein. Enfin, on travaille en dessous du millimètre quand même, hein. On va faire une opération qui s'appelle le calfatage. Donc le calfatage consiste à venir insérer en force un brin de textile, que ce soit du coton ou du chanvre, entre les joints de bordée. Et à ce moment-là, on aura une coque qui est parfaitement étanche.
Donc là, pour le Morvar, les travaux ont commencé. Il faut savoir que du coup, il y a une partie des bordées qui sont détruites et des membrures d'un seul côté, en fait. Donc il faut réparer avec, tout en poursuivant en fait, le travail qu'avait effectué Jean Grouel il y a des années. Est-ce que c'est un travail compliqué de poursuivre le travail de quelqu'un d'autre ?
Non, moi Jean, je trouve que c'est assez exceptionnel ce qu'il a fait, avoir le courage, l'idée de construire un bateau seul, sans connaissance particulière. Moi je lui tire mon chapeau, vraiment il s'est très bien débrouillé. Après, on démonte, voilà, c'est un premier bateau construit par un amateur, il y a des erreurs, c'est normal. C'est normal. Pour le charpentier, c'est pas toujours simple puisqu'il faut rattraper ça, mais bon, voilà, c'est le jeu et ça n'empêche que Jean a fait un très bon boulot.
Il y a aussi l'idée qu'il faut utiliser le même bois d'un côté et de l'autre.
Oui, alors effectivement, ça peut poser question aujourd'hui, parce que à l'époque de la construction du Morvar, il y avait un bon achalandage de bois, notamment de bois exotique. Aujourd'hui, on peut être en mesure de se poser des questions sur l'utilisation de ces bois, sur les déforestations de forêts primaires, sur des bois qui viennent de l'autre côté de la planète. C'est un questionnement qu'il faut avoir aujourd'hui dans notre métier. Là, le bateau est embordé d'un côté en sapelli, le sapelli étant un bois qui vient du Congo. J'allais pas aborder de l'autre côté en une autre essence. Donc j'ai fait le choix de conserver ce bois africain pour garder un bateau à l'identique. Ouais.
Et alors, dans ce métier de charpentier de marine, il y a beaucoup de place laissée à la tradition, c'est la poursuite d'un travail d'une autre personne. Est-ce qu'il y a quand même de la place pour la modernité ?
Bien sûr, parce que... c'est sûr qu'on va essayer d'un côté coller à la tradition, respecter des méthodes ancestrales, parce qu'elles marchent, parce que c'est tout simplement parce que c'est un aboutissement de raisonnement de centaines d'années, donc il n'y a aucune raison de remettre tout ça en cause. Et puis c'est beau aussi de la continuité. Vous parliez de transmission tout à l'heure. Là, donc la continuité de ça, d'une histoire qui continue, un métier qui perdure, mais ça n'empêche que ça n'empêche pas l'évolution. Il ne faut pas rester figé. Aujourd'hui, par exemple, on se permet d'utiliser de la colle. Je pense par exemple aux résines époxydes, qui sont des colles très puissantes, très résistantes. Donc évidemment, il ne faut pas en mettre partout. Mais il ne faut pas s'interdire son usage, parce que ça va permettre des très bonnes solutions techniques ou pallier, par exemple, au manquement de grandes longueurs de bois ou de courbures nécessaires. Et puis aujourd'hui, l'architecture des bateaux, elle évolue énormément. Donc c'est pas parce qu'on est charpentier de marine qu'on a un métier ancestral qu'il faut, il faut pas faire des formes nouvelles. There once was a ship that put to sea. The name of the ship was a Bully of Tea. The winds blew up her bowed up down oh, below my bully boys blow. Soon may the willow man come to bring us sugar and tea and rum. One day when the tonguing is done, we'll take our leave and go. She'd not been 2 weeks from shore when down on her a right whale bore. The captain called all hands and swore he'd take that whale in tow. Soon may the willow man come to bring us sugar and tea and rum. One day when the tonguing is done, we'll take our leave and go. Da 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 da
Before the boat had hit the water, the whale sail came up and caught her, hands to the side, harping and fought her when she dived down low. Soon may the wellerman come to bring us sugar and tea and rum. One day when the tonguing is done, we'll take our leave and go. No line was cut, no whale was freed. The captain's mind was not of greed, and he belonged to the whaleman's creed. She took that ship in tow. Soon may the wellerman come to bring us sugar and tea and rum. One day when the tonguing is done, we'll take our leave and go. Da 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 da. For 40 days or even more, the line went slack, then tight once more. All boats were lost, there were only four, but still that whale did go. Soon may the wellerman come to bring us sugar and tea and rum. One day when the tonguing is done, we'll take our leave and go. As far as I've heard, the fight's still on. The line's not cut and the whale's not gone. The wellerman makes his regular call to encourage the captain, crew and all. Soon may the wellerman come to bring us sugar and tea and rum. One day when the tonguing is done, we'll take our leave and go. Soon may the wellerman come to bring us sugar and tea and rum. One day when the tonguing is done, we'll take our leave and go.